Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Micro-Rebelle Hebdo, à la fois sur microrebelle.fr et sur Radio Plus 104.3, la radio du pays minier et de l'Artois. Je commence par vous rappeler nos horaires de diffusion sur Radio Plus. C'est chaque semaine, le mardi de 12h à 13h. Micro-Rebelle Hebdo, c'est un magazine qui explore l'actualité sociale et politique, un magazine qui s'inscrit dans les luttes pour la mise en œuvre d'une nouvelle société, un magazine à l'écoute des mouvements sociaux dans le bassin minier et au-delà. Chaque semaine, nous vous proposons notre agenda social et culturel, des reportages d'actualité et de la musique libre. Sans attendre, voici notre agenda social et culturel pour les jours à venir. Mardi 20 mars, projection du film 8 avenue Lénine, au lac de Liévin. Dans le cadre de la semaine de la fraternité, la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais s'associe au lac pour organiser une projection du documentaire 8 avenue Lénine, en présence des réalisatrices Anna Pitoun et Valérie Mito. Documentaire de société sur Salkouta Filan et ses deux enfants, Denisa et Gabi. Une famille rome roumaine qui vit en banlieue parisienne depuis 12 ans. Les responsables français et européens affirment aujourd'hui que les Roms ont vocation à rentrer chez eux. Salkouta, dans 8 avenue Lénine, fait la preuve que la France et l'Europe ont la capacité d'accueillir les Roms dignement et que lorsque c'est le cas, il n'y a plus de question Roms. Car en tant qu'européenne, Salkouta a choisi. Et chez elle, c'est ici. Projection donc mardi 20 mars en présence des réalisatrices au lac de Liévin à 18h30, 23 avenue Jean Jaurès. Mercredi 21 mars, c'est une soirée de soutien au Rojava au lac de Liévin à 19h, un événement pour soutenir le Rojava et fêter le nouvel an kurde. Toujours au lac de Liévin, 23 avenue Jean Jaurès, le lendemain, jeudi 22 mars, c'est la réunion mensuelle des OC62, les objecteurs et objectrices de croissance, de 19h à 20h30, jeudi 22 mars, au lac de Liévin. À l'escapade de Hénin-Beaumont maintenant, toujours le 22 mars à 19h, lecture-spectacle « Mère en solitaire ». Cette année, Dame d'Atout a décidé d'innover en réunissant des artistes femmes qui sont programmées dans la saison. Céline Dely et Perrine Fauvez, Anne Conti, Louise Bronx, autour d'une création collective. Celle-ci naîtra de la rencontre des textes de l'auteur Christophe Martin qui est en résidence fin novembre et qui écrira à partir d'interviews de mamans solo de la ville de Hénin-Beaumont. Au final, une forme légère, une lecture musicale qui naviguera au rythme des mots et des musiques, déclinant la vie parfois dure, parfois heureuse, de ses mamans à tout prix. C'est donc le jeudi 22 mars à 19h à l'Escapade de Hénin-Beaumont. Le jeudi 22 mars, au cinéma Les Étoiles de Bruay-la-Buissière, c'est un film en avant-première, Vent du Nord. Cette projection en avant-première à 20h se fait en présence du réalisateur Walid Matar. Voici le synopsis du film. Nord de la France, l'usine de Hervé est délocalisée. Il est le seul ouvrier à s'y résigner, car il poursuit un autre destin, devenir pêcheur et transmettre cette passion à son fils. Banlieue de Tunis, l'usine est relocalisée. Foued, au chômage, pense y trouver le moyen de soigner sa mère et surtout de séduire la fille qu'il aime. Les trajectoires de Hervé et de Foued se ressemblent et se répondent. C'est donc le film Vent du Nord, projeté en avant-première, en présence du réalisateur Walid Matar, jeudi 22 mars à 20h, au cinéma Les Étoiles de Bruay-la-Buissière. Toujours à l'escapade de Hénin-Beaumont, le vendredi 23 mars à 20h, une pièce de théâtre qui s'appelle « Contraction ». Mike Bartlett, l'auteur du texte, livre sans doute un des textes les plus drôles et les plus cruels de ces 10 dernières années. Traitant du monde du travail, on y voit s'entrechoquer la vie privée d'une employée modèle et la vie de l'entreprise. À travers des règlements censés protéger la vie privée de ses employés, l'entreprise, cette entité qui aujourd'hui ne fait que prôner la culture d'entreprise, l'esprit d'entreprise, cherchant à se confondre avec l'esprit de famille, ne fait que contraindre la vie de ses employés. Terminer la singularité de chacun, il faudra oublier l'individu. Il faudra choisir entre sa propre vie, l'amour, la maternité, ou un contrat de travail très bien rémunéré qui financera une vie vide et sans accroc. C'est donc à l'escapade de Hénin-Beaumont le vendredi 23 mars à 20h. Vendredi 23 mars toujours, mais au lac de Liévin cette fois, à 20h, conférence gesticulée sur le thème « La quête du travail idéal et authentique » par Flavien Paulet. Tout cela, c'est avant tout l'histoire d'une obsession. Une obsession pour le travail que j'ai depuis tout gosse. Pourquoi on travaille ? À quoi ça sert? Combien de temps cela prend dans une vie? Et si ça prend beaucoup de temps, alors quoi faire? Il faut que ce soit bien, non? Il s'agit aussi d'une logorée, un truc que vous avez dans le cerveau, dont vous ne pouvez vous défaire qu'en agissant pour son évacuation totale et définitive. Il s'agit aussi d'envoyer paître les idées reçues, les croyances inutiles et médiocres qui ont animé mon quotidien pendant une longue période. Il s'agit de révolte quand même un peu, d'une prise de conscience forte, intense, déstabilisante. Il s'agit enfin de faire quelque chose de tout cela, de produire un sens, de transmettre et de partager. Partager, oui, c'est cela. C'est déjà pas mal. C'est donc une conférence gesticulée sur la thématique du travail, la quête du travail idéal et authentique, le vendredi 23 mars, au lac de Liévin à 20h, 23 avenue Jean Jaurès. On parle encore de travail le lendemain au lac, samedi 24 mars de 10h à 12h30, avec le groupe Féminisme et Décroissance des OC62, qui a choisi d'interroger cette année la question du travail. Il s'associe pour cela au lac, le lieu autogéré de Liévin. Après avoir exploré le rapport entre capitalisme et féminisme, les décroissantes et décroissants se penchent sur la vie des femmes qui, au cours du XXe siècle, ont investi le monde du travail salarié. Émancipation, indépendance économique ou bien double journée, exploitation, inégalité. Quel constat, quelques décennies plus tard? Est-ce vraiment la vie dont on rêve quand on est féministe et décroissante? C'est donc le samedi 24 mars de 10h à 12h30, travail, féminisme et décroissance, au lac 23 avenue Jean Jaurès à Liévin. Le samedi 24 mars, à l'espace culturel Jean Ferrat à Avion, à 14h, c'est de culture et citoyenneté qu'il s'agit, une rencontre-débat dans le cadre du festival Les Utopistes Debout. Sur cet après-midi, de nombreuses compagnies artistiques, programmateurs, intermittents du spectacle, élus, publics, sont invités à échanger sur les fondamentaux et les dangers qui menacent le champ culturel. La journée se terminera par le spectacle de Thomas Suel à 19h. L'entrée est gratuite. C'est donc samedi 24 mars, après-midi, à l'espace culturel Jean Ferrat à Avion. Lundi 26 mars à 20h, ciné-débat au Ciné Movida à Arras à partir du film Atelier de conversation. Dans l'une des plus grandes bibliothèques de la ville de Paris, des gens venus des quatre coins du monde se débattent avec une nouvelle langue. C'est donc le lundi 26 mars à 20h au Ciné Movida à Arras. Eh bien, je vous propose maintenant une pause musicale sur microrebelle.fr et sur Radio Plus 104.3, la radio du Pays Minier et de l'Artois. Comme toujours sur Microrebelle, il s'agit de musique libre. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter une rubrique de notre site micro-rebelle.fr. Cette rubrique s'intitule Zik Rebelle et vous la trouverez sur le site avec toutes les références des morceaux proposés. Il s'agit d'une compilation de musique libre et jouissive avec des airs qui partent aux quatre vents. Cette semaine, c'est déjà la cinquième compilation proposée par Zik Rebelle. Je signale que toutes les émissions Zik Rebelle sont spécialement concoctées et avec passion par l'ami Luc. Sans attendre, voici un extrait de Zik Rebelle numéro 5. Nous diffusons maintenant un reportage lié à l'actualité sur microrebelle.fr et sur Radio Plus 104.3, la radio du Pays Minier et de l'Artois. Aujourd'hui, nous revenons sur le déploiement des compteurs Linky dans le bassin minier. Mardi dernier, une deuxième réunion publique s'est tenue à Lens, cette fois salle Jean Nouin. La salle Jean Nouin est une grande salle contenant 600 places assises. Eh bien, ces 600 chaises étaient toutes occupées et des dizaines d'autres personnes étaient debout. Enedis, la filiale d'EDF qui organise l'installation des compteurs Linky, avait un moment annoncé sa présence à cette réunion. Mais il faut croire que l'imposante mobilisation contre ces fameux compteurs dans le bassin minier ne rassure pas le mastodonte Enedis qui finalement ne s'est pas déplacé. Cette belle et dynamique réunion publique a donc permis aux centaines de Lensoises et Lensois d'écouter les interventions du maire de Lens, de l'UFC Que Choisir, d'un universitaire scientifique et du collectif anti-Linky du bassin minier. Le maire de Lens, pour l'instant tout au moins, ne souhaite pas se prononcer sur cette question du déploiement du Linky. Il n'est pas sûr que cette position soit bien comprise de la part des habitantes et des habitants. Le collectif anti-Linky du bassin minier a pu développer longuement ses analyses et répondre aux nombreuses questions de l'assistance à propos des compteurs Linky. Quel est leur impact sur la santé ? Quel est leur impact sur la sécurité de la maison ? Y a-t-il des risques d'incendie ? Quel est leur impact sur les futures factures d'électricité ? Est-il vrai que des gens ont vu le montant de leur facture bondir ? Quel est leur impact sur l'environnement ? Que va-t-on faire des informations sur la famille que le compteur permet de recueillir ? Comment faire pour refuser le Linky quand on n'en veut pas ? Etc. Signalons également que les participants pouvaient se procurer des lettres de refus du compteur, lettres à adresser à Enedis et à la mairie, ainsi que des autocollants, ou encore des livrets ou de la documentation, ainsi que signer des pétitions. À l'issue de cette assemblée, la mobilisation contre tous les compteurs intelligents, Linky pour l'électricité, Gaspard pour le gaz, et enfin les compteurs concernant l'eau potable, la mobilisation donc se poursuit et d'ores et déjà de nouvelles assemblées sont prévues. À Los-en-Goël, au foyer Omer Caron, mardi 27 mars. À Liévin, salle de l'abbé Jean-Marie Hubert, rue Chanzy, mercredi 11 avril. À Éleudy-Loëtte, où le lieu et la date seront communiqués prochainement. Signalons également une mobilisation en préparation à Évin-Malmaison. À l'occasion de toutes ces réunions publiques, le collectif anti-Linky du bassin minier s'est considérablement renforcé, ce qui lui permet de mettre en œuvre de nombreuses initiatives de mobilisation contre ces compteurs. Les membres du collectif bassin minier adhèrent individuellement à l'association départementale Linky 62. N'hésitez pas à taper Linky 62 dans votre moteur de recherche sur Internet. Et pour contacter le collectif du bassin minier, il vous suffit d'envoyer un courriel à l'adresse de contact suivante linky@bassinminier62.org. Bassinminier 62 tout collé. Le collectif anti-Linky du bassin minier se mobilise actuellement autour de 5 axes. Premièrement, Enedis doit cesser ses installations dans le bassin minier. Pour être plus précis, Enedis ne peut installer un Linky que si la famille l'a expressément notifié. Tant qu'une famille n'indique pas qu'elle souhaite le Linky, alors Enedis doit s'abstenir de toute démarche. Deuxièmement, les élus ne peuvent plus rester neutres devant la question des compteurs intelligents. Il s'agit d'une question qui concerne la santé, avec les personnes électrosensibles qui vivent très mal depuis qu'on leur a installé, contre leur volonté, un Linky. Une question qui concerne aussi l'environnement, qui concerne l'utilisation marchande des données personnelles collectées par le compteur, qui concerne l'emploi, qui concerne le respect des habitantes et des habitants, qui concerne la vie démocratique en France, qui concerne le type de société dans laquelle nous souhaitons vivre, etc., etc. Ainsi, il n'est pas imaginable que les élus de nos communes, de nos agglomérations restent neutres. Rappelons que les compteurs électriques sont propriété des collectivités locales. Et rappelons aussi que dans tout combat du pot de fer contre le pot de terre, se dire neutre, c'est permettre au pot de fer de l'emporter. Troisième axe sur lequel le collectif se mobilise, Enedis doit cesser ses méthodes d'intimidation et de harcèlement, notamment en direction des personnes les plus vulnérables, pour imposer la pose de ses compteurs. Quatrième axe, toute personne à laquelle on a installé un Linky contre sa volonté ou par ignorance et qui ne souhaite plus ce compteur doit pouvoir revenir en arrière et se faire réinstaller un ancien compteur. Et enfin, cinquième axe, tous les points ci-dessus concernant le Linky s'appliquent au compteur intelligent pour le gaz, le fameux compteur Gaspard, et au compteur intelligent qui concerne l'eau potable. Si vous souhaitez vous engager autour de ces différents axes, n'hésitez pas à contacter le collectif anti-Linky du bassin minier. Je vous rappelle leur adresse contact, c'est linky@bassinminier62.org. Eh bien, je vous propose maintenant une pause musicale sur microrebelle.fr et sur Radio Plus 104.3, la radio du pays minier et de l'Artois. Comme toujours sur Microrebelle, il s'agit de musique libre. Eh bien, je vais de nouveau vous proposer une Zik Rebelle. Je vous en parlais tout à l'heure. Zik Rebelle, c'est une compilation de musique libre et jouissive avec des airs qui partent aux quatre vents et que vous pouvez retrouver sur notre site micro-rebelle.fr à la rubrique Zik Rebelle, bien sûr, avec toutes les références des morceaux proposés. Cette semaine, c'est déjà la cinquième compilation proposée par Zik Rebelle. Je signale que toutes les émissions Zik Rebelle sont spécialement concoctées et avec passion par l'ami Luc. Sans attendre, voici donc un extrait de Zik Rebelle numéro 5. 2 a.m. I wrote this shit at 2 a.m. I put this all on mama just like 2 a.m.s. Friends talk behind my back, but fuck, I do to them. Had to take this shit back to where it all began. Off of Granddad, a bedroom up there on Lincoln Ave. Back when I was still penning that I missed my dad. Thinking if I died, I'll put my brain up in the Louvre. Scientists baffled, how a white boy that smooth. Suede shoes on a Persian carpet. The shooter and a target. Did everything wholehearted. Then like a farmer's market, I put it all on the stand. Back when I shared a classroom with Chantel and Lorraine. Back when I shared a locker with Kareem. Then life was so serene. Then Dante's mom adopted me, an orphan with no apology. These February moments. March memories, happy-go-lucky, but with suicidal tendencies. There's a girl from my town I wanna date, I just need to address. I can't bring you to my world, cause my life is a mess. Plus I'm grinding night and day, trying to be the best. Just know I got the key for the tattoo that's on your chest, Lord. Oh, eyes one at 24. I had to risk it all and then a little more. Early 20s, life done put me in a figure four. Who would have figured I'd become a father without fucking raw? Where were you when I had the clips with the black bumper? Or when I sold my Stang and had no whip the whole summer? Or how about when the bank came and tried to take my house? I'm not the same Brian, bitch, watch your mouth. Don't address me as a rapper, but a preacher with beats. A scholar with a scroll, carving joy in the streets. They bump me in the shower and when the family eats. Same ones weeping at my wake, the ones who calling us freaks. Now we live in an era where your phones become a organ. When I die, have Billy Joel up on the organ. Yeah, the coldest white boy you know. Mom used to say that I was too messy, but now I'm known for spilling my soul. It's crazy. At the intersection of forgotten and famous, the nicest and nameless. Without Carter, I'm brainless. Yeah, few times I contemplated killing myself. Deep pains in my stomach, I would fear for my health. But then I think back to times that we go out to lunch at China King. Back when I was too shy to try this rhyming thing. I used to play with Pokemon, but now I get my flowing on. Still going strong out here palming trees like it's Boca Raton on my TV. Petey Pablo trying to live like that. Chingy rocking chains and hoes when he raps. Daydreaming about stages, ducking minimum wages to the newest crazes. Me, R-Y-D-E. I used to be Peter Parker, then I turned into Venom. All black lungs, yeah, it's matching my denim. Yo, Aiden, remember that time we went from Burford back to Plaza? Telling stories, kicking rocks, joking, smoking, ha-ha. We could've took dust and I wasn't flossing, had a little cheddar. For some reason, an hour walk just seemed a little better. Or what about we went to that spot on DeMott? Me, you, Ian, and Fox, rolling up, ducking cops. Mom's bugging, I don't speak, lecture me about pot. Reminiscing about those missions, damn, I missed that a lot. I lost a lot of friends, spending time with pads and pans. Sitting in my pad, working toward these bigger pads and ends. But if you struggle how I struggle, you would understand. This what happens when a child star becomes a man. This what happens when you find out what's important. Now my heart won't close, damn, I think it need a force quit. Somehow through all that bullshit, I didn't lose my mind, luckily. Shit, even older dudes is looking up to me. I had to realize every storm runs out of rain. A lot of shit brewing, same gun but different aim. See, I was raised in Baldwin, but now I won't die here. I got multi-million dollar ideas and visions of everyone saying you did it, son. I don't watch too many shows because I live in one. On my 26th season, still breathing, still eating, still party with my demons, still seeking, still raw paper reeking. Got the floorboards creaking, still fiending, still scheming, still trying to break even. Just a regular kid who had a dream. I won double XL in Time Magazine. So sure of myself, I got the sand all over me. Soon as you hear that, you know it's me. Eastside.
Fuck is up? Shot my boy Neek in Ohio too, I see you boy. That's it.
C'est maintenant l'heure de notre reportage sur microrebelle.fr et sur Radio Plus 104.3, la radio du pays minier et de l'Artois. Tous les reportages de Microrebelle peuvent être podcastés et téléchargés dans leur intégralité sur notre site micro-rebelle.fr, micro et rebelle au pluriel. Nous en diffusons aujourd'hui un extrait dans ce Microrebelle hebdo sur microrebelle.fr et sur Radio Plus 104.3, la radio du bassin minier et de l'Artois. Si cet extrait vous a intéressé, n'hésitez pas à écouter l'intégralité du reportage sur le site de notre web radio. Pour cet extrait, nous vous proposons de poursuivre notre cycle radiophonique consacré à l'agriculture paysanne. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ce cycle en intégralité sur micro-rebelle.fr à la rubrique « Reportage ». Voici donc la deuxième partie de ce cycle. On y retrouve Jean-Luc Malpeau, paysan en retraite, qui s'est engagé toute sa vie dans la défense et la promotion de l'agriculture paysanne et a contribué à la mise en œuvre du réseau régional des organisations qui s'inscrivent dans cette sensibilité. La Confédération paysanne, Avenir 59-62, le CEDAPA, Terre de Liens, le réseau des AMAP, etc. Cet échange exceptionnel est l'occasion de revenir sur l'histoire de l'agriculture paysanne en région, ainsi que sur les enjeux auxquels elle est confrontée aujourd'hui. Par ailleurs, pour éclairer la réalité de l'agriculture paysanne aujourd'hui, ces trois émissions donnent également la parole à des porteurs de projets qui souhaitent s'installer sur des petites fermes, à des paysans nouvellement installés, ainsi qu'à des paysans qui viennent tout juste de partir en retraite. Dans ce deuxième volet, ce sont Dimitri, Caroline et Benoît que nous écouterons. En voici donc quelques extraits.
Dimitri Tabary, je suis exploitant agricole sur le Valenciennois, à Thian, à la ferme du Bayon. Donc on est une petite exploitation qui a été recréée en 2013 sur 4 hectares et demi, et nous élevons essentiellement des porcs sur paille et des volailles que nous commercialisons uniquement en vente directe à la ferme tous les samedis matins, et nous écoulons la totalité de notre production par ce vecteur, par cette façon de vendre à la ferme.
Et, les porcs que tu commercialises sont transformés.
Donc les porcs sont, je les emmène le lundi matin à l'abattoir de Valenciennes, qui reste un abattoir de proximité. Hein. Je mets 10 minutes pour aller les emmener. Et ensuite, ils sont découpés par un prestataire qui est sur Cambrai. Donc même chose, j'essaie de rester au plus proche en fait. Ce prestataire s'appelle Viandaine tout simplement. Hein. Donc c'est un boucher historique de Cambrai qui a installé son fils dans une activité de découpe. Et je récupère généralement la viande le jeudi. Et je transforme, donc toute la partie charcuterie est faite sur l'exploitation agricole par contre. Donc saucisses, pâtés, rillettes, têtes pressées, etc. etc. En fonction des saisons aussi.
Alors comment ça se passe cette transformation? Il faut un atelier, il y a des labellisations, il y a des contrôles sanitaires
Alors bien entendu, il y a une déclaration qui est faite au niveau de la DDPP. Hein. Cette déclaration nous permet de transformer sur la ferme, bien entendu, dans un atelier... sanitaire qui n'est pas agréé puisqu'on a une dispense d'agrément puisqu'on transforme nos propres bêtes en fait et qu'on ne revend pas à des intermédiaires, hein. Donc on a une dérogation en fait à l'agrément CE tout simplement tant qu'on transforme nos bêtes.
Alors peut-être un aspect matériel, hein, on a eu l'occasion d'entendre plusieurs personnes qui étaient installées et revient d'une manière assez récurrente la question de la dureté du travail d'un côté et de l'autre côté la question du revenu. Comment ça se passe pour toi?
Alors nous, on a un cas un petit peu particulier puisqu'on est tous les deux, mon épouse et moi sommes tous les deux double actives. Donc notre activité agricole nous permet de faire face à nos charges de l'exploitation agricole.
Donc tu équilibres quoi?
On équilibre la partie investissement, mais on est incapable de tirer un revenu actuellement de notre exploitation agricole.
Alors... Est-ce que ça, ce sera possible? Alors, et à quel prix? En développant
Alors, voilà, la seule façon de faire, c'est de développer. Hein. Cette année, là, à partir du mois de septembre, on tente une expérience. Mon épouse a pris une année de disponibilité, puisqu'elle est fonctionnaire. Et on va essayer d'ouvrir non plus une matinée par semaine, mais trois demi-journées par semaine pour essayer de doubler l'activité de vente. Et ce qui nous permettrait à ce moment-là, normalement, de dégager un tout petit SMIG, on va dire. Alors après, c'est un SMIG pour quelqu'un qui travaille, qui est salarié. Hein. Si on rapporte ce travail-là au nombre d'heures qu'on passe sur l'exploitation agricole, bien entendu, voilà, on n'est pas du tout au taux horaire du SMIG.
Alors, je vais revenir sur cette installation, le fait que tu es double actif, autrement dit que tu n'es pas issu du monde agricole. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as dû, à un moment donné, dire « je vais me former ». Comment ça s'est passé cette déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça, premièrement ? Puis deuxièmement, comment ça s'est passé d'un point de vue acquisition de connaissances, de savoir, de savoir-faire ?
Alors moi, j'ai une double envie. Hein. Je suis issu, j'ai un grand-père qui était agriculteur. Hein. La génération de mes parents sont tous partis travailler soit à l'usine, soit comme fonctionnaire, très clairement. Donc la ferme est partie à l'agrandissement à ce temps-là. Hein. Et ça m'a toujours fait envie de revenir à la terre, à l'élevage en particulier. Et j'ai un fils qui, depuis qu'il sait parler, veut être agriculteur. Donc clairement, on s'est redonné les moyens pour espérer pouvoir l'installer dans de bonnes conditions. Parce qu'il faut savoir que c'est très compliqué de se réinstaller hors cadre, comme on dit hein, dans le jargon administratif, puisque il faut se refaire un réseau, il faut retrouver une ferme à reprendre. Là, nous, c'est une ferme qui a été entre guillemets à l'abandon pendant pratiquement 4 ans, sur laquelle il y avait 75 hectares, mais nous, on aurait eu la possibilité de racheter uniquement ce qui n'intéressait personne globalement, hein, c'est-à-dire les pâtures qui étaient autour de l'exploitation agricole, au centre du village. Donc tout ça, ça engendre aussi des contraintes après techniques, puisque on va vite se retrouver bloqué en termes d'agrandissement, en termes de mise aux normes, etc.
Et donc ça peut poser souci justement pour le développement qu'on évoquait tout à l'heure ?
Tout à fait, ouais. Là, clairement, pourtant on est installé depuis 2013, donc ça fait 4 ans, et on est déjà en train de réfléchir à une course à l'agrandissement, mais à trouver des terres, certainement à l'extérieur du village, pour pouvoir développer notre atelier porc, par exemple.
Très bien. Alors, ça nous donne peut-être une photo de l'activité. Maintenant, je voudrais qu'on, peut-être, si ça t'est possible, qu'on prenne le point de vue de ceux qui achètent. Qui est-ce qui vient, qui est-ce qui bénéficie des productions de la ferme ?
On a été très étonnés au départ, quand on a démarré les premières ventes. Nous, on a démarré au tout début uniquement en colis. Hein, donc, nos clients, on peut les appeler comme ça, hein, étaient essentiellement des familles avec un peu de monde dans la famille, donc des grosses familles, entre guillemets, qui achetaient du colis. Et on a développé en parallèle, parce qu'il y avait une demande, une activité de vente au détail. Et là, en fait, on a tout un panel qui va de jeunes qui ont 20 ans jusqu'à des retraités qui viennent chercher leur viande toutes les semaines. Et donc, c'est assez intéressant. Et on a vraiment une pyramide. On n'a pas une pyramide, justement. On a un ensemble de personnes qui couvrent toutes les générations. Et il y a même des parents avec les enfants. Et les enfants sont vecteurs aussi dans l'acte d'achat. Et c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il y a une vraie éducation qui peut se refaire par ce biais-là. Parce que les gens sont en face à face avec nous, éleveurs. On peut leur expliquer comment on élève, pourquoi on fait ça. Pourquoi on n'a pas des gros volumes ? Pourquoi toutes les semaines, on ne peut pas avoir un filet mignon parce qu'il n'y en a que deux sur un porc et qu'on ne vend qu'un porc par semaine ? Et tout ça, je pense que c'est une vraie éducation à refaire vis-à-vis des jeunes, notamment.
Et apparemment, ça marche. Autrement dit, on a des consommateurs, des clients, comme tu dis, qui ne vont pas en grande surface.
Ah, bien sûr, du moins, les clients que l'on a, alors on doit avoir un fichier, entre guillemets, on a plus de 500 clients différents qui viennent à la ferme tout au long de l'année et qui sont des personnes qui nous visitent au minimum 2-3 fois par mois, du moins. Donc c'est vraiment une nouvelle habitude de consommation. Et ils font le détour exprès pour venir acheter leur porc et leur volaille à la ferme du Bagnon. Ils ne vont pas ailleurs.
Et ce qui les motive, c'est... j'imagine que c'est que tu n'es pas moins cher que la grande distribution, que tu es peut-être même un peu plus cher, enfin je le présume. Donc ce qui les motive, c'est la qualité, c'est la relation, c'est une conception de la façon de se nourrir, c'est...
Je pense que ce qui les motive le plus, c'est la transparence déjà. Moi, je suis capable, notamment on fait des journées portes ouvertes, même à n'importe quel moment, d'aller montrer mes bêtes, de leur expliquer comment je les alimente, comment je les transforme. Qu'est-ce que c'est que le... Pourquoi moi, éleveur, j'emmène mes bêtes moi-même à l'abattoir aussi? Parce que ça, c'est important aussi. Derrière, il n'y a pas de stress. Ça fait partie aussi de ce qu'ils recherchent en venant dans une vente directe comme ça. Ensuite, en termes de prix, nous, on a pris comme stratégie de dire, voilà, nous, on n'a pas d'intermédiaire, donc on peut se permettre de vendre globalement au prix de la grande surface, alors sauf quand ils font des promotions à 1 euro le kilo le porc. Hein. Mais globalement, on est sur des prix qui se valent avec la grande surface. La seule chose, c'est qu'on n'a pas d'intermédiaire. Donc, je veux dire que la marge qui est faite entre les deux, elle est partagée entre nous et l'acheteur, tout simplement.
Alors, peut-être une dernière question sur l'activité en tant que telle. La solidarité entre paysans, la solidarité dans le monde agricole, tu la connais, c'est quoi? C'est des réseaux? Comment ça se passe?
Alors, au niveau de l'agriculture paysanne, comme je l'appelle, hein, on a de vrais réseaux qui nous permettent de nous entraider, de nous donner des pistes, de nous motiver aussi, parce qu'il faut savoir que quand on est hors cadre, quand on est tout petit, vis-à-vis de nos voisins agriculteurs du modèle industriel, on va dire, c'est clair que on n'a pas beaucoup d'aide à aller chercher ces jeux. Alors après, il y a des exceptions, comme partout. Mais on a un vrai réseau. Moi, je sais que, par exemple, c'est l'association Avenir qui nous a permis de franchir le pas de l'installation, puisque les institutions classiques, à savoir la chambre, à savoir le syndicat, ne me conseillait pas de m'installer, me décourageait même très fortement de m'installer. Et en fait, je suis tombé sur une association qui m'a permis en fait de trouver des personnes qui, comme moi, hors cadre, s'étaient installées et réussissaient à vivre correctement, du moins avec... Alors, quand on dit correctement, c'est pas toujours correctement au niveau financier, mais c'est dans la philosophie de s'installer sur des petites exploitations. Et je pense que c'est vraiment important. Derrière, je me suis intégré aussi grâce à eux dans la Confédération paysanne, qui revendique plutôt, on va dire, à l'installation de plusieurs agriculteurs sur des petites exploitations agricoles plutôt que de favoriser l'agrandissement.
Alors donc, une installation finalement assez récente, en même temps beaucoup de projets de se développer, tu l'as dit. Aujourd'hui, quelle est ta vision du monde agricole, du monde paysan? Tu évoquais des difficultés, tu évoquais beaucoup de travail, tu évoquais des revenus qui demande à grandir. Tu es optimiste, tu es pessimiste?
Alors moi, je suis très optimiste là-dessus parce que je pense que, on le voit bien actuellement avec la crise agricole qu'il y a, quand je côtoie les paysans qui sont installés autour de moi, tous continuent en fait à avoir une vie qui correspond à leurs attentes. Je ne les entends pas se plaindre plus qu'à notre temps. Économiquement, ce sont des petites structures qui assument leurs charges, contrairement à des grosses structures qui, on le voit bien actuellement, peut-être encore cette année, si on a une deuxième crise dans les céréales, si la crise dans la production de lait continue, ces grosses structures-là ont quand même beaucoup de difficultés à assumer leurs charges financières. Si l'État, si l'Europe ne vient pas à leur secours, à mon avis, c'est des modèles qui, économiquement, auront du mal à sortir de cette crise-là. Alors que toutes les petites fermes qu'on a autour de nous passent très bien cette crise-là, puisque nos clients, ce sont, des gens de proximité. On ne voit pas des grands groupes, non.
Alors peut-être juste pour conclure cet échange radiophonique, on est aussi avec Caroline, qui est sur l'exploitation. Alors peut-être Dimitri, moi je réagis un petit peu, peut-être personnellement, tu vas me contredire ou pas. Le soutien du conjoint sur un projet comme ça, c'est important quand même.
Ouais, c'est indispensable. Je veux dire que c'est une aventure où on emmène malgré nous toute la famille. Je veux dire, nous on travaille à deux sur l'exploitation, les enfants, il y a le fils qui donne aussi un coup de main quand il est là. Bon, la fille, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est pas forcément sa vision d'avenir, mais bien entendu on est obligé de vivre à 100% toute la famille sur la ferme parce que c'est tous les jours, c'est c'est une dynamique familiale qu'il faut forcément avoir. Et puis, on passe tellement de temps, je veux dire, sur l'exploitation agricole qu'il faut que la famille accepte, forcément.
Alors justement, Caroline, donc Dimitri l'a précisé, tu es fonctionnaire. L'année prochaine, tu auras une disponibilité, tu seras à plein temps sur la ferme. Aujourd'hui, déjà, quelle est ton activité et puis, comment tu vois cette année prochaine?
Alors moi, mon activité, j'interviens surtout pour tout ce qui est réservation et contact, information, les gens qui nous appellent ou par Internet pour des informations. J'interviens aussi donc le samedi matin pour la vente, pour la préparation et puis les à côté du rangement, du nettoyage, on va dire. Et moi, après, mon avenir sur la ferme à partir de la rentrée, donc c'est vrai que ça sera de m'y investir beaucoup plus pour alléger aussi une partie de ce que Dimitri fait pour
y compris en ayant du contact avec les bêtes
avec, oui ça passera forcément aussi par là. Bon, ça déjà je le fais, ça m'arrive aussi de nourrir les bêtes, de m'occuper des bêtes, même si je le fais beaucoup moins souvent parce que mes horaires sont plus contraignants, mais
Alors quand Dimitri dit bon, un projet comme ça, ça peut pas marcher si c'est pas un projet qui est porté par la famille, comment tu réagis?
Moi non, je pense que ça peut pas marcher si la famille derrière suit pas, parce que c'est impossible. Je vois quand je rentre du travail, on s'était posé la question justement avant que je prenne la décision d'arrêter, est-ce que je me retirais du projet? Et puis parce que c'est vrai qu'à côté il y a encore les enfants, il y a la vie de la maison, et que je me remettais vraiment que sur mon travail, ou est-ce que j'arrêtais mon travail pour me mettre sur la ferme? Et c'est pour l'équilibre de la famille, c'est ce qui est le mieux, parce que c'est impossible de rentrer le soir, traverser la ferme et se mettre des œillères et dire le travail il est là, c'est toute la vie de la maison qui est là, quoi.
Et toi, alors, optimiste pour...
Oui, je pense, oui. Quand on voit les relations avec, les gens qui viennent, avec les clients le samedi matin, avec les gens qui viennent visiter aussi quand on fait des portes ouvertes, quand on voit la réaction de tous les enfants qui viennent avec leurs parents, voir les bêtes, qui viennent, même les enfants qui nous disent qu'ils aiment nos produits, le saucisson, les saucisses, qui demandent à leur papa ou leur maman de l'acheter. Oui, franchement, je suis optimiste.
Et puis finalement, on est complètement dans l'humain, puis c'est une activité qui a beaucoup,
ouais,
beaucoup de sens, quoi.
Oui, oui, oui.
Eh bien, merci Caroline, merci Dimitri, et puis bonne continuation.
Merci beaucoup.
Après ce premier témoignage, nous retrouvons Jean-Luc Malpeau.
Oui, alors moi, ce qui me vient tout de suite à l'idée, alors bien sûr, tout ce que je dis était quand même un petit peu schématique, hein, on ne peut pas entrer dans tous les détails et les choses sont toujours plus nuancées que ce qu'on peut dire.
Hein. Bien sûr.
Mais il y a quand même deux grands pôles vers lesquels s'orientent les agriculteurs, des pôles contradictoires. Il y a un pôle qui est un pôle très intégré à l'industrie. On produit de la matière première pour l'industrie, au moindre coût. L'objectif est de fournir de la matière première à l'agroalimentaire essentiellement, un peu, on en parle moins, mais pour fournir de l'énergie, et puis pour exporter. Et là, il faut produire au moindre coût sur des grandes structures avec très peu de travail, en fait. Le meilleur moyen de diminuer les coûts, c'est de diminuer le travail. Enfin, c'est ce qu'on dit, en tout cas. En tout cas, c'est comme ça qu'on fait.
C'est, en tout cas, le système, c'est ce qu'il vise, en tout cas.
C'est ce qu'il dit. et donc là, c'est une agriculture qui évolue vers une concentration forte des fermes et une intégration forte aux filières. D'ailleurs, quand on entend un certain nombre de responsables agricoles, que ce soit un responsable de coopérative, syndicat, de la FNSEA, qui est quand même dans cette direction-là, très majoritairement, ils parlent depuis une bonne dizaine d'années, ils parlent très peu de la défense d'un modèle agricole, de la défense même du revenu agricole, il parle de la défense des filières. Alors, la filière, ça regroupe l'aval, donc ceux qui fournissent les matières premières à l'agriculture, donc les mieux placés, les plus connus, c'est les industries chimiques.
C'est les chimistes, oui.
Monsanto et tous ses copains, là. Et puis aussi ceux à qui on vend, c'est-à-dire l'agroalimentaire essentiellement, essentiellement l'agroalimentaire. Donc on attend, ils ont quand on, de cette tendance-là, ce pôle-là de l'agriculture considère l'ensemble. On défend des filières, qui sont des filières capitalistes carrément, quoi. Donc, et donc il faut que l'agriculture s'adapte à ça, c'est-à-dire la concentration des moyens de production, plus de technologies. Alors maintenant, on commence à parler de drones. L'autre jour, j'entendais dans une émission à la télé, là, sur Arte, un intellectuel, hein, je crois, qui disait que maintenant, l'agriculture, grâce aux drones, va pouvoir faire de la meilleure qualité et mieux respecter l'environnement. Je ne sais pas comment, mais bon. Donc on voit bien que cette agriculture-là demande, puisqu'elle se base essentiellement sur de la technologie et, et donc des capitaux, est une agriculture qui va être de plus en plus financiarisée, c'est-à-dire dépendre de la finance, puisqu'il faut emprunter, il faut financer tout ça. Et donc les comptes qu'elle aura à rendre, ce sera à la finance. C'est quand même le pôle majoritaire, même si tout le monde, même s'il n'y a pas tant d'agriculteurs que ça, qui consciemment veulent aller vers ça, mais c'est quand même la tendance majoritaire, parce que tout le système pousse dans ce sens-là. L'autre pôle, c'est ceux justement qui sont issus en partie des courants dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, plus d'autonomie, plus de paysans, et aussi des pôles bio, par exemple, qui eux, existent depuis longtemps, mais qui ont été vraiment reconnus à partir des années 90. Encore que les bio, il y a un débat, hein, mais en général, ils vont plutôt dans ce sens-là, et de ceux qui pensent que l'agriculture doit être intégrée au territoire. Donc, qu'ils se considèrent moins comme des chefs d'entreprise, mais plus comme des acteurs d'un territoire.
Ce qui finalement était la vie paysanne de toujours.
Ouais. Oui. Alors, ce qu'on nous a appris, nous, quand même, parce que je pense que c'est important, cette notion de chef d'entreprise, c'est que quand on gère sa ferme comme une entreprise, on gère sa ferme pour optimiser les résultats financiers dans le contour de la ferme. Ce qui se passe ailleurs, ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas. Si on gêne les voisins, ben c'est pas notre problème. L'essentiel, c'est que notre ferme tourne bien. Si on pollue l'eau, ben c'est pas plus notre problème. C'est ça. Alors que quand on a une agriculture qui est intégrée sur un territoire, on prend en compte tous ces aspects-là. Et ça change complètement la façon de penser l'activité. Ça ne la simplifie pas, hein, mais ça change la façon de penser. Et dans ce cas-là, si on intègre au territoire, les comptes à rendre ne sont plus aux financiers, mais c'est les comptes à rendre à la population du territoire. Ce n'est pas les mêmes comptes. On ne rend pas les mêmes comptes dans ce cas-là. Donc voilà. Donc pour moi, ma vision d'ensemble, c'est ces deux pôles-là. Alors, ce qui se passe quand même, et qui s'exprime par la crise actuelle du lait, par exemple, c'est que beaucoup de gens qui ont suivi la direction de l'efficacité, de la productivité, et donc de la diminution des coûts, qui ont investi beaucoup, avec la déréglementation du marché du lait, ils n'arrivent plus à rembourser. Et donc, tout en ayant fait un choix dans une direction, ils se rendent compte que c'est une impasse pour eux, une impasse tragique. Enfin, forcément, quand on pense au nombre de gens qui se sont suicidés depuis 5 ans, c'est catastrophique, quoi. Et pourtant, c'est des gens qui avaient bien suivi le modèle. Sauf que quand ils se sont lancés dans le modèle, le lait était encore protégé, le prix du lait était garanti avec les quotas, plus ou moins garanti avec les quotas. Puis tout d'un coup, pour moderniser la politique européenne, on a supprimé les quotas, et ce système-là ne marche plus. Donc, le système, à mon avis, qui va dans le sens du maximum de productivité, d'intégration aux filières, etc., ne permet pas, met les gens complètement en insécurité. Alors ça peut très bien marcher le jour où les cours vont monter, etc., et là on peut gagner beaucoup d'argent, mais un jour ou l'autre, on est éliminé, quoi. Alors que le système plus territorialisé, où on investit moins, où on est plus une grande diversité, donne une plus grande résilience, pour employer des mots modernes. Ça ne veut pas dire qu'on gagne forcément beaucoup d'argent, mais on a moins de chances de se faire éliminer. Puis plus de satisfaction humaine aussi, hein. Enfin en général.
Ce micro-rebelle hebdo se termine sur microrebelle.fr et sur Radio Plus 104.3, la radio du pays minier et de l'Artois. Nous terminons par de la musique libre et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.
Open them doors, I just stroll through. One yo be a one yo be a oh. One yo be a one yo be a oh. One yo be a one yo be a oh. When God open them doors, I just stroll through. One yo be a one yo be a oh. One yo be a one yo be a oh. One yo be a one yo be a oh. When God open them doors, I just stroll through. Accept me or not, I'm destined to soar like some espionage. I assist and explore, I spy with.
Ce micro-rebelle hebdo se termine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Salut à toutes et à tous et à la semaine prochaine.